30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors, une émission particulière en ce samedi 14 mars. On va faire trois portées de sportifs qui ont pris l'un des vols les plus courts de l'histoire des transports aériens. Un aller simple avec le destin sur le tournage d'une émission de télé-réalité. C'est tragique. Alors retour sur ces trois personnages, il y aura un boxeur, une nageuse et une navigatrice. Nous commencerons ces trois portraits par peut-être le moins connu, Alexis Vastine. Il avait 28 ans. Viendra ensuite Camille Muffat. Elle n'avait que 25 ans. Et enfin, nous terminerons le troisième portrait avec la doyenne Florence Artaud, née en 1957. En octobre 2015, elle aurait eu 58 ans.
Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, OTS de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune punch. Box, box, lui le vieux Kid Marin. Kid Marin c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. OTS de pierre, pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Box, 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 il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre bombardent le plexus. Box, box, l'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse. Box, il esquive mon swing. Kid Marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire voir qu'il est deux et champion. Box, quatre boules de cuir et soudain deux qui roulent, répandant leur chapelle dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7, box. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve. Et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains. Kid Marin, viens me voir, ça ira mieux demain. OTS de pierre, je prendrai ma revanche. Et j'aurai ton sourire, boxe comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes points. Même si dans les coins, box, box, j'y vois encore luire. Quatre boules de cuir, quatre boules de cuir. Box, 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 box.
Alors on va commencer donc cette émission particulière de 30 minutes chrono par évoquer Alexis Vastine. Alors la chanson que vous l'avez peut-être reconnue, c'est Claude Nougaro avec ses quatre boules de cuir, où le boxeur prend un KO, il a du mal à se relever, mais là notre petit Alexis lui pourra pas se relever parce que un crochet d'hélicoptère c'est mortel. Je vais d'abord remercier le quotidien, l'équipe, parce qu'il va me servir en fait de guide pour cette émission. Il a fait le mercredi dernier, le 11 mars, il a fait un numéro spécial, uniquement consacré aux trois disparus. Alors de nombreux extraits du quotidien vont servir pendant cette émission, donc je le dis tout de suite afin qu'on ne me dise pas que je plagie les gens, hein, c'est volontaire. C'est sur la scène olympique qu'Alexis Vastine était né aux yeux du grand public. Vous en souvenez, je suis sûr. Nous étions à Pékin en 2008. Vous vous souvenez, vous savez, la boxe, on ne la regarde pas souvent. On regarde, enfin, sauf les spécialistes, bien sûr. Mais d'abord, il y en a très peu à la télévision, sauf sur les chaînes payantes. Donc, il faut, pour voir de la boxe sur les chaînes en clair, il faut les Jeux Olympiques, souvent. Alors, on voit des boxeurs amateurs, comme on dit, qui vont après pouvoir peut-être passer professionnels. Et on a découvert de très grands champions grâce aux Jeux Olympiques. Alors, nous, là, on est en 2008, on est à Pékin. On découvre ce petit bonhomme là, tout de bleu vêtu, qui défend nos couleurs, et on est en demi-finale. C'est la demi-finale donc qui va décider qui va aller en finale pour se disputer la médaille d'or. Il faut savoir qu'en boxe, quand on perd en demi-finale, il n'y a pas un match d'appui, hein, on est médaille de bronze. Quand vous perdez la demi-finale, les deux boxeurs qui ont perdu la demi-finale sont médaille de bronze. Donc c'était soit le bronze, soit la finale olympique. Alors, on le voit, donc il quitte en larmes ce ring après une défaite qu'on peut dire scandaleuse, hein, contre le dominicain Félix Diaz. Il dit en pleurant : « Je me suis fait voler. Je ne savais pas qu'on en arriverait à faire ça aux Jeux Olympiques. Ils n'ont pas le droit de faire ça », rageait-il, alors inconsolable avec sa médaille de bronze. Le même fond de rumeurs d'arrangement et de corruption dans la Fédération mondiale ressurgira 4 ans plus tard à Londres. Cette fois-ci, Vastine va s'incliner contre un Ukrainien, Taras Chestleschuk, excusez-moi de la prononciation, déclaré perdant d'un combat qu'il a dominé. C'était incroyable, il recommence la même chose 4 ans plus tard. Il s'était fait voler à Pékin et à Londres. On recommence la même chose, toujours le même boxeur, toujours le petit Alexis. Comment, quel destin quand même. Alors il s'est fait vraiment voler, encore une fois, ce jour-là. Alors il s'allonge sur le tapis, vous vous souvenez de cette image? Cette image-là, cette fois-ci, c'est pas en larmes avec sa médaille de bronze. Là, il reste sur le ring, il s'allonge, les bras en croix. D'un air de dire, mais foutez vraiment la tête du monde, j'ai gagné. Alors, le rêve est fini. Alors dans la douleur... Il dit, c'est pas deux fois qu'on peut faire ça, c'est un truc de dingue, c'est une honte. Alors encore des pleurs, encore une désillusion. Londres, ça l'avait tellement plombé, 100 fois plus que Pékin, disent ses proches. Parce qu'à Pékin, il avait une médaille, tandis que là, il se fait éliminer pendant le tournoi. On n'était pas encore sur au moment où on avait des médailles. Il va traverser le désert un peu, notre champion. Il va avoir beaucoup de mal, hein, parce que vraiment, quand on revoit les matchs, c'est vraiment vraiment scandale. Scandale, il se fait battre probablement parce que ça a arrangé la fédération machin qui connaissait le juge truc. Parce que c'est ça aussi le problème avec ces sports où on juge avec des points. Alors des points pour taper sur l'adversaire, mais surtout des points, on donne des points. Ce sont des juges, c'est quand même difficile. Regardez les Jeux Olympiques d'hiver quand il y a le patinage artistique. On n'y connaît rien nous, mais des fois on se dit mais c'est pas possible. Pourquoi lui il a 5-7 et l'autre il a 5-3? Il me semblait pourtant qu'il n'avait pas fait de faute. Enfin, donc on est toujours un peu surpris. Ben la boxe, c'est un peu tentant quand même. Hein, quand on a la fédération machin qui connaît la fédération truc, le juge truc qui connaît le juge machin, on peut s'arranger entre amis. Alors donc Alexis, il était inconsolable, mais il va encore une fois se relever. C'est pour ça que son destin tragique, je le trouvais terrible, parce qu'il avait décidé, ben, il irait à Rio en 2016. Parce que cette fois, il dit « j'irai au bout, j'irai vraiment au bout ». C'est la dernière fois. Après, il passerait probablement professionnel. Il faut savoir que si vous voulez aller aux Jeux Olympiques, il ne faut pas que vous passiez professionnel. Vous restez dans le domaine du sport amateur. Alors, vous avez des sponsors, vous avez des choses comme ça, bien sûr, mais vous n'êtes pas professionnel. Il avait décidé. Et il n'ira pas, évidemment, puisqu'il est décédé le 9 mars à Villa Castelli, en Argentine, à l'âge de 28 ans. Alors, il y a un grand champion, un très grand champion, qui l'avait pris un peu sous sa coupe. Alors, je vais donner quelques extraits, toujours tirés du journal L'Équipe. Hein. C'est Teddy Riner. Teddy Riner, bon, je ne le présente pas, le grand champion de judo. Alors, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait, il a dit « c'est l'horreur, c'est inacceptable ». C'est trop dur de trouver des mots pour expliquer ce que je ressens. La famille du sport est en deuil. À titre très personnel, moi, je perds un frangin. C'est terrible. C'est terrible parce que Teddy Riner, quand Alexis était à l'INSEP, vous savez, là où on met les champions ensemble, il était en déprime terrible après ces Jeux olympiques de Londres, ce deuxième scandale. Et Teddy Riner en a fait comme un... il est devenu un peu comme son copain, son frangin, comme il dit lui-même. Alors, ils étaient très liés. Alors, on ne se voyait pas tout le temps, bien sûr, mais on s'envoyait beaucoup de SMS à longueur de temps. Notre amitié a commencé en 2004-2005. Hein. Quand j'ai débarqué à l'INSEP, j'étais cadet. Et avec son frère Adriani, Alexis m'a pris sous son aile. En fait, c'est assez amusant quand on voit les deux personnages. Vous avez un petit boxeur tout fin et un très grand champion de judo, très grand et très fort. Et bien, c'est Alexis qui avait pris en charge Teddy, qui débarquait comme jeune cadet. Vous imaginez, cadet, c'est 15 ans, 16 ans. Hein. C'est jeune hein, quand vous êtes déraciné, etc. Et bien, c'est Alexis qui avait fait le chemin. Alexis, il venait d'une famille nombreuse aussi, il faut savoir ça. C'est la famille Vastine, c'est quelque chose. Hein. On les a hélas vus à la télévision, parce que c'était pendant des circonstances, on aurait voulu les voir. Ce sont des gens très soudés, des gens simples. Et quand Teddy est arrivé, eh ben, il a trouvé ce copain plus grand, un peu son grand frère en quelque sorte. Alors, comme vous, il avait que décroché le bronze aux Jeux de Pékin, parce que Teddy Riner, à ce moment-là, n'avait pas été champion olympique, puis après, il a fait tout ce que vous savez. Oui, mais lui, il aurait dû atteindre la finale si sa demi avait été arbitrée correctement. Il a été volé. Alors, pour que Teddy Riner dise ça, c'est qu'il a vraiment été volé. Alors voilà, un petit hommage à ce boxeur. Et puis, on va changer de personnage et d'environnement. Et on va aller voir un petit peu notre ami Camille Muffa. Alors de retour pour ce 30 minutes chrono, un peu particulier puisqu'il n'y a pas d'invité, mais on rend hommage aux trois sportifs qui ont disparu dans cet accident d'hélicoptère en Argentine. Alors après le boxeur, on va passer à la nageuse. La musique qui a introduit cet hommage, on peut dire, c'est Swim and Sleep et c'est Unknown Mortal Orchestra. Alors, nager et dormir, là, c'est vraiment nager et dormir éternellement, on pourra dire. Alors, Camille Muffa, ben, c'est ce visage rayonnant qu'on a vu, surtout là aussi, après les Jeux Olympiques. On voit beaucoup nos nageurs aux championnats du monde, aux championnats d'Europe, et surtout aux Jeux Olympiques, où elle avait gagné ben, le titre du 400 mètres, hein, le 400 mètres en 2012 aux Jeux de Londres. On voit ce visage rayonnant qui restera, à mon avis, sa marque de fabrique, même si elle est disparue. Alors, elle ne laisse jamais rien au hasard. Vous savez, Camille, elle ne laissait jamais rien au hasard. Rigoureuse, toujours s'investissant dans tout ce qu'elle entreprenait. Alors, cette fois, évidemment, elle s'était embarquée dans une drôle d'histoire quand même, hein. Une histoire de télé-réalité. On l'avait convaincue que ça devait être sympathique, hein, d'aller avec d'autres artistes et d'autres, surtout sportifs, aller pour une émission qui s'appelle Dropped. Alors, Dropped, ça veut dire, comme son nom l'indique en anglais, on vous laisse quelque part et puis vous vous débrouillez. En gros, c'est ça. Alors, je ne veux pas faire la publicité pour les télé-réalités. Hein. Bon, vous voyez à peu près le genre de truc. On met des gens connus, on les laisse quelque part. Ils doivent se débrouiller, ils doivent dormir, manger, etc. Bon, bref. Or, elle était très inquiète quand même pour l'aventure Dropped et elle s'y était investie à fond. Hein. Ce qui l'inquiétait, elle avait dit à ses proches, c'est est-ce qu'elle saurait souffrir de la faim ? Ça, c'est quand même assez étonnant. Ben là, évidemment, elle ne risque pas de souffrir de la faim. C'était une inquiétude qui semble évidemment dérisoire hein, aujourd'hui. Mais pour y répondre en partie, et peut-être inconsciemment, elle avait confié avoir drastiquement réduit sa nourriture pendant 3 jours avant de s'envoler pour le tournage. Elle s'était entraînée comme une championne. Elle avait dit d'accord, bah, s'il ne faut pas que je mange pendant 3 jours, je vais commencer à faire un peu d'entraînement pour voir jusqu'où je peux aller. C'était tout à fait Camille Muffat. Camille Muffat aussi a la réputation d'être une pune de... Oh, c'est gentil, hein, une chippie. Hein. Elle faisait des blagues. Déjà, quand elle était toute petite, il paraît qu'elle planquait des escargots dans les voitures de ses grands-parents pour que, quand ils arrivaient, il y avait des escargots qui étaient pleins dans la voiture. Bon, c'était Camille Muffat. Elle a un caractère, hein. Du gros caractère. Il ne faut pas oublier qu'elle va succéder en quelque sorte à Lorma Naudou. Lorma Naudou, qui était notre championne de natation, elle va lui piquer la place en quelque sorte. Hein, en quelque sorte, parce que Lorma Naudou prenait sa retraite et puis était sur le déclin. Mais pour arriver à prendre la place d'une personne qui avait tellement occupé les médias pendant longtemps, ben, il fallait avoir du caractère et elle en avait. Alors c'est une niçoise. La ville de Nice va d'ailleurs lui rendre hommage en débaptisant la piscine olympique de Nice pour la nommer le bassin Camille Muffat. Alors, elle avait été décorée, elle, par François Hollande hein, en 2013 à l'Élysée avec de la Légion d'honneur puisqu'elle était championne olympique. Elle avait fait face à toutes ces attentions médiatiques avec toujours curiosité. C'est une jeune femme qui était, comment dire, elle s'intéressait à tout, en fait. Elle voulait savoir des choses. Elle a voulu même savoir un petit peu, puisqu'elle a rencontré, évidemment, des gens du show business, des chanteurs. Elle s'intéressait à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, elle voulait vivre pleinement sa deuxième vie. Parce que pour le commun des mortels, à 25 ans, nous, on commence notre première vie. Hein. Mais pour les sportifs de haut niveau, surtout les nageurs, à 25 ans, là, vous êtes terminé. Hein. C'est rare de voir, à moins quelques exceptions, comme vous savez, comme quelques exceptions. Mais sans ça, quand on arrive à 25 ans nageuse, bah, vous avez commencé, vous étiez toute petite dans les bassins. Ça fait déjà 15 ans, loin, que vous faites de la compétition, que vous entraînez très, très dur. C'est un des entraînements les plus durs de la natation hein, qui existe. Aligner des bassins à 7 heures du matin, tous les jours, ça ne doit pas être tous les jours très, très, très drôle. Hein. Donc, il faut du caractère. Et bien, à 25 ans, donc, c'est fini, pour ainsi dire. Donc, pour elle, c'était en tout cas, elle avait décidé que c'était fini, après tant de titres et tant de gloire. Et elle allait commencer une deuxième vie. Elle ne savait pas très bien vers quelle orientation elle allait donner à cette vie. C'est pour ça qu'elle était un peu une touche-à-tout. Une touche-à-tout et un personnage que tous les gens qui l'ont rencontrée, ben, elle était attachante, quoi, d'après ce que j'ai compris. Alors, on a beaucoup de témoignages. Je cite juste un rapidement. Hein. C'était un partenaire d'entraînement à Nice. Hein. Et il a dit, on a grandi ensemble, il s'appelle Clément Lefer, hein. Il a dit, on a grandi ensemble à Nice. Ce qui me fait mal, c'est qu'elle n'a pas pu profiter longtemps de sa nouvelle vie après la natation, c'est ce qu'on disait. Je me réjouis quand même de penser qu'elle est partie en faisant ce qu'elle aimait, vivre des émotions fortes. Cette émission, pour elle, c'était un projet important, ça correspondait bien à sa personnalité. Elle, la fille courageuse, toujours à 100%, Alors quand j'ai appris la nouvelle, vers 3 heures du matin, donc, plein de souvenirs me sont revenus. Au Jeu de Londres, bien sûr, ça a été l'apogée de notre groupe, nous les Niçois. Il y avait Yannick Agniel, vous vous rappelez, Charlotte Bonnet, Camille et donc Clément Lefebvre. Dans ce groupe, il y avait une entente vraiment extraordinaire, dit-il. Et on les voit en photo dans le journal L'Équipe spéciale. On voit le fameux Yannick Agniel, grand champion français aussi de natation. Et ils s'entraînaient ensemble des fois. Alors pourtant, les filles et garçons, ils faisaient des 4x100 pour le plaisir. Ah ben on va laisser Camille Muffat rejoindre son bassin de natation divin. Hein. Je suppose qu'elle va faire moins d'entraînement, elle va faire plutôt que relax dans les piscines du paradis. Et puis on va avoir le troisième portrait d'une troisième championne qui a disparu. Ça sera le portrait d'une navigatrice. Alors, le troisième portrait avec cette introduction qui s'appelle « Sailing Out to Sea » et c'est Matthew Marshall que nous avons entendu. Alors, Sailing, bien sûr, c'est la navigatrice, hein, c'est celle qu'on avait appelée la petite fille de l'Atlantique. Alors, Florence Artaud. Florence Artaud, elle aurait eu, elle, 58 ans cette année, en 2015. C'est donc la doyenne des disparus. C'est une femme d'exception, Florence Artaud. Je crois que c'est difficile d'imaginer même. Cette petite fille qui n'était pas du tout née au bord de la mer, c'est une Parisienne, elle va devenir, l'un des plus grands marins, puisque c'est un monde d'hommes, la marine. Hein, quand on traverse les océans, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a Hélène MacArthur, Florence Artaud, quelques autres, mais pas beaucoup. C'est un monde marin. Pourquoi ? Parce que c'est super dur quand même de prendre un petit bateau, là, parce que ça semble grand quand on les voit, nous, mais quand ils sont sur une petite coquille de noix au milieu des océans, c'est rien du tout. Ils sont perdus au milieu de l'immensité des océans et de la mer. Puis la mer, elle ne fait pas trop de cadeaux. Hein. Alors si elle en avait fait un à Florence, elle était tombée de son bateau en Corse. Elle était donc... elle allait mourir. puisque quand on tombe à la mer en plein milieu de la Méditerranée, quand la première côte est à, 30 km, 40 km, vous avez beau savoir nager, hein, si vous êtes à la mer, vous êtes à la mer. Hein. Donc elle était tombée, puis elle avait réussi, elle a eu une chance incroyable, puisque son téléphone portable était avec elle et elle avait pu appeler, ça c'est il n'y a pas longtemps, et quelqu'un avait vu prévenir les secours, elle avait été sauvée. Donc c'est une miraculée. Alors, ironie du sort, pour un marin, elle est morte dans les airs, dans un hélicoptère. C'était pas son truc, trop les hélicoptères, je crois. Hein. Mais bon, c'est un destin, à l'image du personnage. Alors, son exploit le plus retentissant ne date pas d'hier. Hein. Celui qui l'a vraiment fait connaître du grand public, parce qu'avant, elle était quand même connue du milieu de la voile, hein. C'est la route du Rhum. C'est la route du Rhum 1990. À la surprise générale, à la barbe de tous les poilus marins, gros biscottos qui étaient à ses côtés, elle double tout le monde et elle arrive la première. Elle gagne la route du Rhum, au nez à la barbe de tous les marins. Alors, c'était devenu une star à cause de ça. Une star bien plus que dans son sport. Hein. Bien plus que son sport. C'était une figure aussi des femmes, hein, côté féminine. Du fait d'avoir battu sur leur propre terrain les hommes. C'est pas évident, parce que vous savez que dans les sports en général, bah, on différencie bien entendu les hommes des femmes, parce que c'est une question purement de morphologie. Hein. On ne va pas faire sauter en hauteur les femmes et les hommes en même temps, c'est tout à fait logique. Mais là dans la mer, là. Hein, là, on part avec un bateau, il y a deux hommes, deux hommes, vous voyez que c'est un milieu de marins. Hein. Il y a deux individus, ben, il y a une femme et un homme, c'est l'égalité parfaite. Là, il n'y a pas de différence, on ne lui fait pas de cadeau et elle n'en a jamais fait, elle n'en a jamais demandé d'ailleurs. Alors, les pleurs même conjugués de tous les marins du monde ne font jamais monter le niveau des océans. Pas plus, hélas, qu'ils n'adoucissent la salinité des tristesses partagées. Florence Artaud est donc partie, fille des vents, broyée dans les vilains airs brassés par des rotors d'hélicoptères. Le sort n'est jamais ironique, paraît-il. Ni la fatalité, une raison pour ne pas tout accepter, peut-être. Il existe pourtant des sports où la mort n'est pas qu'un collègue, mais une relation de travail. Eh oui, le marin solitaire le sait bien parce que le rapport qu'il entretient avec la disparition n'est qu'un paramètre de plus dans l'univers du possible. Quand vous partez tout seul ou toute seule sur un bateau, vous savez que vous devez intégrer la mort. Alors en 1986, que Florence s'était détournée pour secourir Loïc Garadec au cours de la troisième route du Rhum. Ça, je ne sais pas, vous vous souvenez de cette chose, parce que les marins entre eux, là, c'est vraiment un monde de respect. Donc elle était en course et puis elle s'est détournée pour aller secourir donc Loïc Garadec. Elle n'avait découvert qu'un gigantesque multicoque renversé, flottant entre deux eaux. Voilà, donc elle était arrivée trop tard. Voilà, donc Florence, on lui dit un dernier au revoir. Et puis elle nous restera, bon, avec ce visage éclairé, avec ce côté un peu aussi marin. Il paraît que c'était une troisième mi-temps de première classe, Florence, quand elle descendait de son bateau. Elle savait aussi profiter de la vie et des ports. Comme un marin, c'est un vrai marin. Alors merci pour tout ce que tu as fait, Florence. Merci aussi donc à Alexis et à Camille. Et puis ces 30 minutes chrono se terminent donc sur ce petit hommage à ces trois disparus. L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono.